Radio Grenouille, Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Taha Adnan, qui est l'auteur de Bye Bye Gillo. C'est une création à Tunis en février 2013. C'est joué en ce moment dans le cadre du festival Iwarat à la Friche Belle de Mai. Et ça se joue vendredi 29 novembre, 18h30, et dimanche 1er décembre à 16h. Et Taha Adnan est avec nous dans les studios. Bonjour Taha.
Bonjour Emmanuel.
Taha, donc l'auteur de Bye Bye Gillo, cette pièce. Taha, tu es né à Marrakech exactement. Quelques mots sur cette ville, Marrakech.
Oui, à la base, moi, je suis né, c'est vrai, à Safi. C'est une ville côtière, mais j'ai ouvert les yeux, disons, à Marrakech. Marrakech, pour moi, c'est tout simplement le rêve. C'est une ville que j'adore. C'est une ville qui est malheureusement trop touristique aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'on ne peut qu'adorer cette ville si on va au-delà des clichés, hein, donc touristiques, parce qu'il y a toujours le problème des clichés qui massacrent la réception de toutes les belles choses, donc, soit au niveau littéraire ou artistique, comme au niveau tout simplement de villes, comme la ville de Marrakech.
Tu as participé à un cercle de jeunes poètes non conformistes. Qu'est-ce que c'est que ce cercle ?
Oui, mais ça c'était au début des années 90. Donc on est sorti directement de l'université. C'était dans une ambiance très particulière parce qu'on se retrouvait un petit peu face à l'institution culturelle marocaine, soit le ministère de la culture ou bien l'Union des écrivains, ou bien. Et donc, on se sont regroupés un petit peu et on a fait quelque chose qui s'appelle l'algarade poétique. Donc, comme disait Abdeltef Labi dans un article, il porte déjà son programme dans son titre. C'était pour dire que voilà, on peut exister d'une façon au niveau poétique sans passer par les chemins habituels ou sans soumission aux compromissions en quelque sorte, mais bon, on avait aussi 24 ans à l'époque. Hein.
Et vous avez aussi réalisé une revue.
Oui, il y avait Voix Moderne, tout à fait. Mais déjà, à la base, ce n'était pas uniquement un groupe, l'Algarade Poétique, mais c'était aussi une petite revue qu'on distribuait gentiment entre amateurs de la poésie. Seulement, on avait décidé que ça soit... parce qu'il y avait la revue avant. Donc, nous, on est descendu pour dire qu'on va choisir nos lecteurs. Donc, on fait quelque chose de manuscrit qu'on envoie... on fait des photocopies, on envoie des lecteurs par-ci, par-là. Seulement, ces lecteurs, ce sont des poètes. Hein. Donc, à la base, qu'on choisit. Donc, ce n'est pas comme la revue avant, Voix Moderne, qu'on peut trouver chez le libraire. Là, non. C'est la revue qui va vers le récepteur, qui est généralement à qui on demande aussi de faire des copies, d'envoyer. C'est une manière de...
Une forme de correspondance.
De correspondance. Et aussi, c'est... surtout pour nous, c'était une manière de dire qu'on est là, qu'on existe, mais en dehors du système, disons, et du marché poétique ou littéraire.
Et si vous aviez des pères en poésie, ce seraient lesquels, par exemple ?
Écoutez, les pères... des pères comme ça, j'aime pas trop le mot, parce que c'est très paternaliste, justement. Mais disons que il y a des influences. Donc ça peut commencer par le Abdeltef Labi dont je viens de parler, comme Mahmoud Darwish, Adonis, Charles Bukowski, voire Baudelaire et Rimbaud. Hein. Donc heureusement qu'il y a cette possibilité, à travers même la traduction parfois, parce que moi j'écris à la base, je suis un poète principalement d'expression arabe, mais à travers la langue française ou peut-être d'autres, un petit peu l'anglais, j'arrive quand même à lire autre chose que la poésie arabe, tout en disant que d'abord il faut commencer par le commencement. Moi, j'ai commencé par les poèmes suspendus, donc de l'époque pré-islamique, et un peu de Coran. Et je crois que si on veut être un bon poète en arabe, il faut commencer par ça.
Il y avait un mouvement, je crois, de poètes littéraires et même sans doute intellectuels au Maroc qui s'appelait Souffle. Enfin, il y avait une revue, Souffle.
Oui, tout à fait. Bon, ça, c'était à l'époque déjà avec Tahar Ben Jelloun, Abdeltif Lahbi, Mohamed Khairuddin, Nissaboury, etc., etc., etc. Ça, c'est une dynamique de fin des années 60, début des années 70. Donc ça, c'était dans un contexte, disons, spécial. On m'a demandé surtout d'écrire quelque chose par rapport à Souffle. C'est vrai que Souffle a marqué quand même un petit peu, non pas seulement la génération des années, fin des années 60 et début des années 70, mais aussi les générations futures, comme la nôtre, parce que Souffle, c'est aussi une manière de voir les choses, une poésie qui a à la fois, parce que je ne sais pas pourquoi, je pense toujours à Khairuddin et à Abdeltif Lahbi, à la fois contestataire, mais sans perdre l'essentiel, le poétique.
Aujourd'hui, vous vivez en Belgique.
Oui, je vis en Belgique depuis 96. Voilà, pour bien prononcer le chiffre en belge. Oui, donc j'ai fait le pas vers la Belgique déjà après 2 années de chômage marocain. Après une licence en économie, donc plusieurs entretiens, je me suis retrouvé pour continuer mes études. Et je ne le regrette pas dans le sens où aujourd'hui, je me sens très bruxellois, maroxellois à la limite. Hein, donc, et ça m'a donné, heureusement, la possibilité de voir autre chose, et même au niveau, disons, artistique, hein, donc, d'explorer autre chose. C'est une richesse en soi.
Ce qui ne vous empêche pas d'écrire ce texte, Bye Bye Gillo, qui est quand même l'histoire d'un homme qui se fait expulser de Belgique.
Oui, c'est peut-être si j'ai parlé de Bye Bye Gillo dans ce texte, c'est parce que je vis en Belgique. Autrement, ça aurait pu être un petit peu difficile. Mais cela dit, ce qui m'intéressait dans ce texte, ce n'est pas uniquement le fait que ce Gillo a été expulsé ou raconter l'histoire de son papier, mais je voulais absolument toucher, présenter cet individu en tant que personne. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir une pièce de théâtre. Il y avait un chauffeur de camion et puis un sans-papier algérien derrière. Les gens, ils sont sortis en pensant au chauffeur, mais pas au sans-papier. Pourquoi ? Parce que le chauffeur, il a été largué par sa femme. Il y avait quelque chose de touchant chez lui. Le sans-papier, c'était un problème. Moi, j'ai pas envie de parler de problème. Et du coup, je présente Gillo, Gilali de son nom, avec ses histoires. Et donc, le moment de l'expulsion, pour moi, c'est juste un prétexte. On l'isole pour mieux, pour lui donner la possibilité de se confesser et de raconter un petit peu ses histoires.
C'est pour ça, sans doute pour cela, ce choix du monologue, d'aller dans l'intériorité de ce personnage.
Oui, à la base, ce n'était pas vraiment un choix dans ce sens, parce que moi, j'écris principalement la poésie, puis je suis parti pour le roman. J'ai un roman en écriture, enfin éternellement en écriture, disons, et j'avais un personnage qui était très bavard, qui est Gillo. Et puis je lui dis, tiens, viens, ta place n'est pas là. Et c'est vrai qu'il partait toujours dans des monologues, mais cela dit, par après, je devais justement habiller le personnage et lui donner beaucoup plus de possibilités d'agir, de sortir tous les conflits au moment de l'isolement, donc soit interne avec lui-même, avec son nom, sa maman, son oncle, etc., sa copine flamande qu'il a larguée aussi, etc., 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 comme interne, je disais comme externe aussi, avec le monde, etc. Et je devais raconter surtout ça à travers des histoires marrantes, tout en gardant la fierté à ce personnage, et tout en gardant, parce que c'est aussi un petit voleur, hein, donc, mais un bon voleur. Il sait très bien là où il doit voler, là où il ne doit pas voler. Il se défend bien sans devoir se justifier par rapport à ça. C'est un Robin des Bois des temps modernes. Il fait ça avec beaucoup de noblesse. Et moi, je voulais sortir toutes ces contradictions et les raconter fièrement, mais sans misérabilisme.
Est-ce que vous avez participé à la mise en scène avec Bachar Murkus, qui est le metteur en scène de cette pièce ?
Non, pas du tout. J'étais en Palestine, donc j'ai discuté avec eux au tout début. J'ai expliqué un petit peu ce que je voulais avec ce texte. Bachar, il devait tout simplement venir ici à Paris pour apercevoir des gilets un peu partout, c'est ce qui lui a excité un peu plus. Mais je ne voulais pas, bien sûr, moi c'est la dramaturgie, c'est autre chose. Moi j'ai écrit un texte, je l'écris pour le théâtre, c'est bien expliqué, mais j'ai laissé aussi aux Palestiniens de me surprendre. Ils l'ont fait d'ailleurs, le gilot palestinien, il est multiple. Il y a 3 gilots pour finir. Il y a les 2 flics au tout début qu'on les voyait étouffer le gilot en question, qui s'identifiaient directement à lui, commençaient à reprendre ses monologues. Et c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant et que je peux aussi comprendre. Parce qu'au début, je n'ai pas compris pourquoi 3 gilots. Alors que, mais l'expulsion pour finir de gilots qu'il a vécu en tant que personne, en tant qu'individu, les Palestiniens, ils l'ont vécu en tant que peuple. Et donc, il y avait, d'où, à mon avis, il y a cette identification collective. Autre chose, c'est que le gilot... en question, donc le gilot palestinien, il devait faire tout un effort pour raconter ses propos, parce que les propos de mon gilot à moi, le Marocain qui était en train de se faire expulser, d'après mes amis palestiniens, ils ont vu la réception ici en France, ils ont directement réalisé qu'il est différente que celle du monde arabe, parce que le gilot, il est d'ici. C'est quelqu'un qui existe ici en Europe, enfin qui existe, hein, donc c'est une existence un petit peu...
On peut le croiser dans la rue, je pense.
On peut facilement le croiser dans la rue, mais sans le voir. Parce que c'est pour ça, moi j'ai essayé un petit peu de m'approcher à ce gilot, qui peut bien sûr se balader un peu partout, mais qui est toujours discret. Moi, j'ai mis un peu plus de lumière sur sa vie pour tout simplement donner envie aux gens d'écouter une histoire avant de voir un cas social.
C'est sans doute le rôle du poète que celui de mettre en lumière les choses de l'espace des ténèbres.
Oui, tout à fait. Et puis, je crois que quand on fouille un petit peu et on regarde et on creuse, y a l'humain. Parce que le traitement, soit médiatique ou politique, d'une cause... Ça, c'est une chose. Mais qu'on arrive avec les moyens et les outils de la littérature, là, on va vers l'humain et vers le commun et vers l'universel.
Merci, Tahal Adnan. On parlait de Bye Bye Gilo, qui est donc ce texte mis en scène, que vous avez écrit, mis en scène par Bachar Murkus dans le cadre du festival Iwarat. C'est donc vendredi 29 novembre à 18h30 et dimanche 1er décembre à 16h. C'est au petit plateau de la Friche Belle de Mai. Ce festival Iwarat se poursuit jusqu'au 1er décembre. Égypte, Irak, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, France. Et c'est du théâtre de la danse, de la lecture et des conférences. Merci.
Radio Grenouille, Radio Grenouille, 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec...